Le Club des idées sur France Inter avec notre trio infernal du dimanche, Laurence Luret, Alexis Brézé et Laurent Geoffrin. J'ai dit un trio, je ne suis pas du trio.
Trio angélique.
Vous avez lu le Céleste. Dernier livre de Jean-Claude Michéa, Notre ennemi, le capital.
Et oui, Patricia, deux jours après l'investiture de Trump, le candidat du marché, le super PDG devenu président, eh bien, jetez un œil sur ce livre. Alors, sans doute faut-il être Michéa pour réaborder avec des accents marxistes la critique du capital dans une société, la nôtre, tout entière convertie à l'économie de marché, et prendre tout le monde, particulièrement la gauche, à rebrousse-poil. Alors construit à partir d'un entretien donné par Michéa pour le site Le Comptoir début 2016, puis enrichi de notes, de renvois, de parenthèses, ça donne un livre dense sur les paradoxes de la gauche, avec une pensée parfois complexe, où une réflexion en entraîne une autre. C'est déroutant, pas toujours facile à suivre, mais ça ne laisse pas indifférent. Alexis Brézé, Notre ennemi, le capital, c'est le titre. Vous êtes convaincu ?
Il est contre le capital.
Toute une partie de la démonstration. Sûrement plus que Laurent Geoffrin. L'ennemi de Jean-Claude Michéa, c'est la gauche de Laurent Geoffrin. C'est le fond de sa thèse, mais qui est tout à fait intéressante. C'est un livre qui est passionnant. Si vous l'avez dit, qui est complexe, mais qui est absolument passionnant. Le fond de sa thèse, c'est que le libéralisme économique pour aller vite de la droite, et le libéralisme culturel pour aller vite de la gauche, ce sont les deux faces de la même médaille. Que l'un entraîne l'autre et que l'autre entraîne toujours l'un. Et c'est un socialiste, Michéa. C'est un socialiste pré-marxiste. Il n'est même pas marxiste, il est pré-marxiste, plutôt proudhonien. C'est un socialiste curieux, qui est un socialiste conservateur, qui récuse l'idée du progrès et qui fait une virulente critique de la gauche, dont il dit que se convertissant au progrès au moment de l'affaire Dreyfus, elle s'est au fil du temps, mais c'était inévitable, dit-il, converti au libéralisme, donc au capitalisme, et qu'elle est devenue cette gauche bobo qui ne s'intéresse plus à changer les conditions, les rapports de production, le capitalisme, le libéralisme, qu'elle s'intéresse aux droits des minorités, aux droits de ceci, aux droits de cela, à la GPA, à la PMA, bref, la gauche bobo, bref, la gauche de libération. C'est ça que critique Michéa.
Alors, Laurent Geoffrin qui souffle.
Je trouve que cette accusation est franchement calomnieuse.
De la part de Michéa.
De la part de Michéa. Et de la vôtre aussi, puisque vous la reprenez à votre...
Je ne reprends pas, je décris.
Allons-y.
D'accord.
Laurent Geoffrin.
C'est pas parce qu'on est pour le droit des minorités qu'on est pour le capitalisme le plus débridé. Ça, c'est une idée qui ne va pas du tout de soi. Et si, s'agissant de moi ou de mon journal, on a toujours soutenu des camps, des partis, des idées qui étaient hostiles aux excès du marché, toujours. On a toujours défendu les luttes sociales, les syndicats, la sécurité sociale, l'État-providence, etc. Un niveau élevé d'imposition pour essayer de faire une redistribution. Et donc cette idée que dès lors qu'on est pour le mariage pour tous, on est pour les multinationales, c'est une idée, à mon avis, stupide, franchement stupide. Ça ne se vérifie pas, en tout cas. Il suffit de regarder ce qu'on écrit, ce qu'on défend, c'est pas vrai.
C'est
une accusation gratuite.
Mais quand Michéa dit que la gauche a abandonné le peuple...
Alors, c'est compliqué comme affaire. Ce qui est bien dans le livre, je trouve, c'est qu'il revient au socialisme originel.
Oui.
Hein, celui de Pierre Leroux, par exemple. Et donc, effectivement, les socialistes, à l'origine, sont méfiants à l'égard du progrès industriel. Parce que, d'abord, c'est l'exploitation la plus brutale de la classe ouvrière, d'une part. Et d'autre part, c'est la dissolution des liens élémentaire de solidarité communautaire, et donc c'est une société qui est une jungle, qui est une société de la concurrence de tous contre tous, de la guerre de tous contre tous, et les socialistes, c'est pour ça que ça s'appelle socialisme d'ailleurs, ce qui consiste à dire l'homme est un animal social, c'est pas seulement un individu, et le paradigme libéral est faux, ou en tout cas incomplet, parce que les hommes ne sont pas seulement voués à la concurrence des uns contre les autres, ils ont aussi des sentiments élémentaires, ce que Orwell appelle la common decency, c'est-à-dire des sentiments élémentaires d'altruisme, de don, de réciprocité et de respect. Et donc, effectivement, là-dessus, il a raison. Il a raison. Et alors, c'est contre les marxistes et c'est contre les libéraux.
Alors, Alexis Brézé qui boue sur son sujet.
Non, je ne boue pas, mais oui... Un de ses postulats, c'est que le libéralisme seul, le libéralisme à l'état pur, ne permet pas de fonder une vie en société. Et de ce point de vue, je pense qu'il a raison. Que le seul intérêt, la loi de l'argent, les eaux glacées du calcul égoïste, comme disait Marx, ça ne suffit pas pour faire qu'une société fonctionne, que les gens vivent en harmonie. Et alors lui, il dit, on va revenir à un socialisme donc pré-marxiste, effectivement, Leroux, Proudhon, etc., une sorte de socialisme originel. Et là, alors là, c'est là où je suis un petit peu sceptique, c'est que c'est malgré tout un socialisme qui n'a jamais existé, qui n'a jamais, alors peut-être dans quelques phalanstères, donc c'est une sorte d'utopie. Il dit, il faut revenir à ça. Et surtout rejeter le socialisme progressiste. Il faut rejeter le progrès parce que le progrès n'a pas de limite et le progrès est finalement porteur du libéralisme. La critique du libéralisme pur en tant que tel, le libéral, je pense, moi, là-dessus, je le rejoins. Ce que je crois, moi, et c'est le contraire de sa thèse, c'est que la coexistence entre le libéralisme et le conservatisme, puisque lui, il est conservateur et socialiste, est possible. Il y a une contradiction, il y a une tension absolument indubitable, philosophique, entre conservatisme et libéralisme. Pour autant, si on regarde, par exemple, les conservateurs anglais, ça fait des siècles qu'ils sont à la fois conservateurs et libéraux. Si on regarde le général de Gaulle était un homme éminemment conservateur, et il a fait une politique absolument libérale, Rueff, Armand, etc.
Alors justement,
c'est philosophiquement difficile à fonder, mais c'est dans la pratique assez facile. Possible à harmoniser.
Alors justement, Michéa pense que le clivage n'est plus entre droite et gauche, hein, entre conservateurs et progressistes, partisans du progrès, du mouvement, mais entre ceux d'en bas et ceux d'en haut. C'est-à-dire pour lui, il y a ceux qui organisent la vie des autres et ceux qui subissent cette organisation. Votre avis à tous les deux, Laurent Geoffrin ?
Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous avez des progressistes en haut et des conservateurs en bas. Et c'est normal, il y a un pluralisme. Est-ce que Lord Keynes, qui est probablement un des hommes du XXe siècle qui a le plus fait pour améliorer le sort des salariés et faire en sorte qu'on maîtrise autant que possible l'évolution économique sur des bases avec une morale égalitaire. Est-ce que Lord Keynes c'est un homme d'en bas? Non, il était Lord, je viens de lire. Il était très riche, il faisait partie de l'establishment britannique le plus sophistiqué et qui vivait le plus confortablement. Donc dire ceux d'en haut on n'en voit pas et ceux d'en bas sont formidables, c'est un peu court comme pensée.
Il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de caricatural. Ce qu'il y a de vrai, on retrouve ça dans plein aujourd'hui de penseurs. Michéa, il est derrière à la fois la pensée de Patrick Buisson, que de Onfray, de Christophe Guillouis.
Là, je vous arrête parce qu'il est quand même de gauche.
Il est quand même de gauche, oui. Mais cette opposition.
Mais attendez,
je viens de prendre.
On marche sur la tête.
C'est vrai qu'il s'exprime dans le Figaro.
Il est pour un socialisme décentralisé.
Non, mais bien sûr qu'il est de gauche. Mais ce que je dis, c'est que sa pensée conservatrice qui oppose la France d'en haut à la France d'en bas, la France du centre à la France périphérique, on retrouve ça chez Guillouis. On trouve ça chez Buisson, on trouve ça chez Onfray, on trouve ça chez plein de monde. Et derrière ça, on sent le Brexit, on sent le Front National, on sent Trump. Tout ça, la grille d'explication de Michéa permet d'expliquer plein de choses.
Il s'en défend.
C'est une grille en tout cas d'explication. Et c'est difficile de nier que, dans une certaine mesure, les élites se sont coupées du peuple. C'est un fait. Pour autant, et là je vous rejoins, vous, contre lui, dire que le bien serait absolument et toujours du côté du peuple d'en bas contre le peuple d'en haut, ça me paraît tout à fait caricatural. Marx n'était pas comme ça. Marx ne moralisait pas. Il disait pas les bourgeois c'est mal et les prolétaires c'est bien. Il disait les bourgeois c'est les bourgeois, les prolétaires c'est les prolétaires et la marche de l'histoire enterrera les uns au profit des autres. La vision de Michéa, qui est une vision morale, me paraît de ce point de vue intéressante mais parfois caricaturale.
Alors dernière question, très rapidement, vous répondez
là,
chacun.
Vous avez vu l'heure, Laurent Suret.
Est-ce un livre que les candidats à la présidentielle devraient lire? Oui, non, pourquoi? En deux mots chacun, s'il vous plaît.
Oui, ils devraient le lire. Je ne sais pas s'ils auront le temps, mais. Il devrait le lire, mais en même temps, il y a des erreurs graves. Par exemple, il fait référence constamment à Marx, mais Marx aurait changé d'avis probablement sur le capitalisme en constatant que la condition ouvrière a radicalement changé.
Là, il y a plus de deux mots.
Après la guerre.
Alexis Brézel.
Oui, il faut le lire, car c'est une des grilles d'explication de la colère des peuples. La colère des peuples qu'on sent en France, qu'on a vu aux États-Unis, qu'on voit en Angleterre, qu'on voit partout. Cette grille d'explication de la colère des peuples, il faut que les dirigeants la prennent en compte et la comprennent.
Il y a plus de deux mots aussi.
Sinon,
là,
elle les renversera.
Laurence Luret, la parole vous est donnée.
Bon, alors, un peu plus de deux mots. Ben, moi, je dirais, faites-vous votre propre opinion en lisant ce livre. Parcourez-le, picorez-le. Il fourmille de notes, de longues parenthèses, de renvois. Son intérêt, c'est d'agiter le débat d'idées et c'est bien ce que l'on attend de la part d'un philosophe. Alors, Michéa est un penseur iconoclaste, accusé de conservatisme par la droite, mais aussi par la gauche. Il faut dire que dans ce livre, il prend tout le monde à rebrousse-poil, surtout la gauche, qui l'oppose au socialisme et à ses idéaux émancipateurs initiaux. Il assume le populisme, devenu à tort un gros mot, selon lui, accablant la gauche pour avoir abandonné abandonné le concept de peuple, remplacé en quelques décennies par celui de minorité. Il assume aussi la décroissance, car la croissance actuelle n'est pas soutenable pour la planète, dit-il. Mais surtout, il analyse ce qu'ont en commun le libéralisme et le capitalisme, tous deux héritiers des Lumières, selon lui. Et c'est bien là une des causes de notre désorientation actuelle. Du coup, le progrès serait plus ambigu qu'on ne le pense. Alors, mon conseil, lisez le très bon chapitre sur l'hiver du capitalisme. Pour Michéa, nous sommes arrivés, je cite, au stade terminal du capitalisme. Je pensais d'ailleurs à ça en regardant il y a deux jours l'investiture du président Trump, ce parti du marché qui arrive au pouvoir, comme le dit un autre philosophe, Marcel Gauchet. Bref, voici un essai certes déroutant, mais stimulant à ne pas manquer.
Notre ennemi, le capital,
de Jean-Claude Michéa. Vous le trouverez aux éditions Flammarion dans la collection Climat.
Merci Laurence Luret, Alexis Brézé et Laurent Geoffrin. À la semaine prochaine.